Vous écoutez On lit pour vous.
Le dossier des animaux pourrait être entendu en appel. Un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne paru le 29 mai 2026 dans la presse. Les locataires pourront-ils contester l'interdiction d'avoir un ou des animaux dans leur appartement? La question se retrouve maintenant devant la Cour du Québec. La cause. Dans une récente décision, la juge Suzanne Guévremont du Tribunal administratif du logement, TAL, a annulé l'interdiction imposée par un propriétaire à sa locataire d'avoir des animaux de compagnie. Cette décision fait l'objet d'une demande d'appel de la part du propriétaire, la Société de gestion immobilière Amilis. Le juge Scott Hughes de la Cour du Québec a entendu les parties au dossier jeudi et a mis sa décision en délibéré quant à savoir s'il permettra que l'appel soit entendu sur le fond ou pas. Les multiples questions posées par le magistrat aux parties impliquées laissent toutefois présager qu'il autorisera l'appel. Les questions en jeu. C'est que la décision du TAL a fait surgir un certain nombre d'inconnus et soulevé deux nouvelles questions, explique Maître Marie-Claude Saint-Amand, avocate représentant la SPCA de Montréal. La question vraiment nouvelle, en fait, c'est de savoir si oui ou non une clause comme celle de Mélissa Desjardins, la locataire impliquée, qui interdit les animaux, contrevient à la vie privée parce que ça n'a jamais été traité par la jurisprudence. La deuxième chose, c'est que ça soit à la lumière de l'article qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. Nous, ce qu'on a amené comme argument, c'est de dire que ce sont des membres de la famille et que ça doit être pris en considération parce qu'avant, on considérait que c'était des choses. Mais maintenant, on reconnaît que ce sont des êtres sensibles, donc des membres de la famille à part entière. Et ça, c'est une nouvelle question qui peut être de l'intérêt de la Cour du Québec. Plaidant pour le propriétaire, Maître Damaris Pineda a notamment fait valoir que la manière dont la juge Guévremont a rédigé sa décision revient à invalider la clause interdisant les animaux, ce qui s'appliquerait donc à tous les baux du Québec. Elle soutient de ce fait que la juge ne pouvait prendre une telle décision sans passer par le législateur, en l'occurrence le procureur général du Québec. Maître Saint-Amand réplique que non, la juge Guévremont a vraiment appliqué la décision au cas de Mélissa Desjardins. Ça peut servir de précédent, absolument, mais ça ne veut pas dire que la décision a un effet dans tous les baux du Québec. C'est la différence, mais ça peut être un précédent qui peut être appliqué. Évidemment, si on va devant la Cour du Québec, ça va devenir un précédent sur lequel les tribunaux, le tribunal administratif du logement, va devoir s'appuyer. La posture de la SPCA. Cette cause pourrait très bien être portée d'appel en appel jusqu'à la Cour suprême, mais ce n'est pas ce que souhaite la SPCA. Elle, qui doit recueillir tous les animaux qui lui sont confiés par des locataires qui ne trouvent pas de logement prêts à accueillir leurs compagnons. Comme l'explique la directrice des affaires juridiques de la SPCA de Montréal, Maître Sophie Gaillard, il y aurait une autre solution qui, elle, s'appliquerait à tous. Il y a une façon très simple de régler la situation, c'est de légiférer pour empêcher les propriétaires d'interdire les animaux de compagnie, comme l'ont déjà fait d'autres juridictions dans le monde et comme l'a proposé Québec solidaire en 2023. Et on attend toujours que le gouvernement et les partis politiques se positionnent clairement sur cette question-là. Selon les dernières données de la SPCA, 87 % des logements au Québec interdisent les animaux ou ne les acceptent qu'à de strictes conditions. C'est rendu quasiment impossible de se loger avec un animal au Québec, et ce, en pleine crise du logement, alors que c'est maintenant plus d'un foyer sur deux qui comprend un chat ou un chien, déplore Maître Gaillard. À l'argument toujours évoqué par les propriétaires, soit celui des nuisances que peuvent causer les animaux de compagnie, elle réplique qu'il existe un cadre juridique très robuste pour les protéger. On a des protections solides actuellement en place en vertu du Code civil du Québec qui protègent les propriétaires, qui font en sorte que des locataires qui causent des dommages sont redevables, doivent compenser, doivent garder le logement en bon état. En plus de toutes ces protections-là, on a de la réglementation municipale en vigueur à travers le Québec qui circonscrit le nombre d'animaux qu'on peut avoir dans un logement, le type d'animal qu'on peut avoir, qui régit aussi la salubrité, les nuisances, les dérangements qui peuvent potentiellement être causés. Le bien-être des autres locataires. Maître Pineda a cependant fait valoir, en contrepartie, que la Charte des droits et libertés protège aussi le droit à la vie, à la santé et à la sécurité des autres locataires d'un immeuble qui peuvent avoir peur d'un animal, être allergiques ou qui ne veulent pas être dérangés par le bruit. Elle a reproché à la juge Guévremont d'être demeurée muette sur ces questions. La loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal invoquée par la magistrate protège le bien-être des animaux et non celui des humains, a rappelé Maître Pineda, qui a aussi fait valoir que le législateur a aussi permis aux propriétaires d'interdire l'usage du cannabis dans leur logement, malgré la législation et le droit à la vie privée. La suite des choses. Le juge Hugues n'a pas indiqué quand il déciderait si la Cour du Québec accepte d'entendre ou non l'appel. C'était « Le dossier des animaux pourrait être entendu en appel ». Un texte de Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne paru le 29 mai 2026 dans la presse.
L'égalité, vue par Geneviève Bois, un texte de l'équipe de rédaction paru le 7 mai 2026 dans La Gazette des femmes. La docteure Geneviève Bois est médecin de famille. Elle exerce principalement dans la communauté crie de Wapmagoestwi, sur la côte de la baie d'Hudson, où elle habite et pratique depuis plusieurs années. Elle partage sa vie entre le nord, en Eeyou-Istchee-Bay-James, et le sud, où elle se consacre à la santé reproductive, tant en pratique clinique qu'en enseignement. Elle travaille au Centre de santé des femmes de Montréal et dans les centres de santé des femmes de l'Outaouais, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale. Elle est également professeure adjointe de clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. La docteure Geneviève Bois est une militante pro-choix engagée, régulièrement invitée dans l'arène médiatique et politique comme commentatrice ou consultante sur les questions de santé reproductive et d'accès à l'avortement. Elle est actuellement présidente du Collège québécois des médecins de famille. On connaît l'importance d'éduquer les filles et les garçons aux relations égalitaires et de leur transmettre des modèles d'équité. Que signifie ce constat pour vous en matière de contraception? Quelle bonne question! On doit aborder deux aspects ici. D'abord, il faut reconnaître que la situation actuelle est préoccupante en matière de relations égalitaires et qu'on observe des reculs. Les médias sociaux jouent assurément un rôle en amplifiant certains messages problématiques, et la tendance est mondiale. Mais je pense aussi qu'on a peut-être cru que les choses allaient s'améliorer d'elles-mêmes. Pour citer ma collègue Jacqueline, qu'on entend dans le documentaire « Libre de choisir », on s'attendait à un progrès plus rapide et plus constant pour le droit des femmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de minimiser les avancées, mais de reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire et que le statu quo, souvent, est synonyme de recul. On observe des stéréotypes persistants et une augmentation de certaines formes de violence chez les jeunes, particulièrement envers les filles. C'est grave et ça mérite qu'on s'y attarde davantage. Une responsabilité collective et individuelle. En matière de contraception, il faut distinguer deux perspectives. À l'échelle collective, l'équité commence par la contraception gratuite. C'est un problème majeur que ce ne soit pas encore une réalité. Les femmes portent toujours l'immense majorité du fardeau logistique, financier et mental de la contraception. Au-delà de la gratuité des contraceptifs sous ordonnance, il faut aussi s'assurer que l'ensemble des méthodes sont réellement accessibles, y compris celles sans prescription, comme le condom, ou permanentes, comme la vasectomie et la ligature tubaire. Actuellement, l'accès à la ligature est difficile à cause du manque d'accès au bloc opératoire, ce qui limite concrètement les choix. À l'échelle individuelle, l'équité implique un meilleur partage de la charge contraceptive. Même si la dimension logistique repose souvent davantage sur une personne, il est possible de mieux répartir les responsabilités, entre autres sur le plan financier et du soutien. Sur une vie reproductive, ce n'est pas seulement le coût des contraceptifs qui pèse, mais aussi le temps pour obtenir des rendez-vous, aller à la pharmacie, la charge mentale de s'assurer qu'on n'en manque pas, notamment en voyage ou lors de transition. Dans ce contexte, il est encourageant de voir certains partenaires s'impliquer davantage, par exemple en accompagnant à des rendez-vous ou en contribuant financièrement, mais cela demeure trop rare. Plus largement, il y a aussi un travail d'éducation à faire pour normaliser des choix comme la vasectomie, qui est une procédure moins invasive que la ligature tubaire, mais encore entourée de stéréotypes. Sur le plan de la santé reproductive, en particulier de l'avortement, les droits des femmes reposent sur l'accès aux soins. Parlez-nous de cette réalité dans les villes et régions du Québec. Le droit à l'avortement n'a de sens que s'il s'accompagne d'un accès réel aux soins, et cet accès demeure inégal à travers le Québec. On a souvent tendance à opposer villes et régions comme si l'accès était toujours bon en milieu urbain et toujours difficile en région, alors que la réalité est plus complexe et nuancée. Dans plusieurs régions, il n'y a qu'un ou deux points de service, parfois aucun. Avoir un seul point de service met une pression énorme sur les équipes. La fragilité est palpable. Il faut rappeler qu'il n'existe pas de standards minimaux d'accès à travers le territoire. Un danger actuel, c'est que, dans les discours publics et politiques, on pousse les femmes vers l'avortement médicamenteux dans les milieux ruraux ou éloignés parce que c'est plus simple à organiser. C'est inacceptable. Il est absolument essentiel de préserver le choix. Les deux méthodes doivent être accessibles partout sur le territoire dans des délais raisonnables. Des obstacles structurels. Les barrières à l'accès sont multiples. informationnelle, financière et logistique. Sur le plan informationnel, la désinformation est commune et les mouvements anti-choix sont actifs. Sur le plan financier, tout le monde n'a pas accès à la régie de l'assurance maladie du Québec. De plus, les coûts indirects, transport, garde d'enfants, perte de revenus, peuvent représenter des obstacles majeurs. Sur le plan logistique, l'accès est limité par les horaires restreints des cliniques et il n'existe pas de service le soir ou la fin de semaine. C'est pourquoi il faut garantir un accès minimal dans chaque région tout en reconnaissant que certains déplacements demeureront nécessaires. Cela implique de soutenir concrètement les patientes, notamment en matière de transport et d'accompagnement. Dans un contexte de précarisation et d'affaiblissement du filet social, ces obstacles deviennent encore plus marqués. Le plan d'action sur l'accès à l'avortement proposé par le gouvernement constitue un bon point de départ, mais il devra être renforcé. Vous écoutez « L'égalité vue par Geneviève Bois », un texte de l'équipe de rédaction, paru le 7 mai 2026 dans la Gazette des femmes. Les choses progressent-elles dans le bon sens pour les femmes dans les milieux médicaux, universitaires et de la recherche? Réponse courte. Il y a des avancées, bien réelles, mais ce n'est pas la panacée. Je suis encouragée par certains changements, parfois assez rapides pour que j'en aie été témoin dans mon propre parcours universitaire. Mais le rythme reste trop lent et inégal. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Reconnaître le progrès, tout en admettant qu'il est insuffisant. J'ai étudié en médecine à un moment où les cohortes étaient déjà en majeure partie féminines, mais cette réalité ne se reflétait pas dans les postes de pouvoir. Les professeurs, chefs de département, doyens et directeurs demeuraient majoritairement des hommes. On sentait que la féminisation était récente, précaire, et pas particulièrement bien vue. De tous les doyens, il n'y a eu qu'une seule doyenne arrivée en poste alors que je terminais mon cursus. Au-delà des chiffres, il y a les conditions d'exercice. Les femmes, bien que majoritaires, se trouvent pénalisées par des attentes liées à leur genre plutôt qu'à leurs compétences. C'est préoccupant. Médicaliser les femmes. Je m'inquiète aussi de la récupération du discours féministe à des fins commerciales et de la médicalisation de toutes les étapes de la vie des femmes. Toute condition devient un problème médical possible ou quelque chose à optimiser, à maximiser. L'industrie de la beauté, les produits dits d'hygiène intime, les discours sur le vieillissement, c'est payant de faire du marketing sur le dos des femmes. Par exemple, bien qu'il soit important de parler de la ménopause, et de soulager les symptômes de celles qui le souhaitent, il ne faut pas oublier que le vieillissement est normal. Mais dans un monde où les hommes deviennent des silver fox en vieillissant, les femmes disparaissent de l'espace public. On vivrait sûrement mieux notre ménopause si ce n'était pas comme ça. Je suis féministe parce que... Je suis féministe parce qu'il le faut. Je suis féministe parce que notre vie en dépend. Parce que notre liberté et notre sécurité en dépendent. Parce que c'est une question de droit de la personne. Je suis féministe parce que nous devrions toutes et tous avoir le droit de vivre librement, de rêver, de choisir nos trajectoires et d'avoir une autonomie complète et totale sur notre corps. Parce que les torts du passé ne sont pas dans le passé. Il ne faut pas se leurrer. Il existe encore, partout dans le monde, des personnes qui remettent en question les droits des femmes. Des femmes libres, ça fait encore peur. Être féministe, ce n'est pas être hargneuse ou fâchée, même si les femmes ont le droit d'être fâchées et ont de quoi l'être. Mais dans l'espace public, on apprend jeune que, dès qu'on exprime une émotion, l'étiquette d'hystérique n'est pas loin. Des comportements vus comme normaux chez les hommes deviennent problématiques chez les femmes. S'affirmer, parler fort, interrompre, prendre de la place. Être féministe, c'est refuser ces doubles standards et reconnaître qu'il faudra continuer à se battre. Quelle personnalité féministe vous inspire le plus? C'est difficile de n'en nommer qu'une seule. J'ai la chance d'être entourée de femmes inspirantes au quotidien. Je pense à des figures historiques, Thérèse Casgrain et Viola Desmond, qui se sont attaquées au racisme et au sexisme, à Manon Massé, qui a œuvré une vie durant à faire avancer la justice sociale, ce qui implique l'équité pour les femmes. Je pense à Elisabeth Vallet, politicologue et communicatrice, qui nous éclaire sur les liens entre la politique et le genre. Aux réalisatrices fantastiques du documentaire « Libre de choisir », Élise Ecker-Lambert et Julie Boisvert, qui ont réalisé un film lumineux qui ne peut exister qu'au Québec. À l'international, je pense à Bell Hooks, Gloria Jean Watkins, pour son travail intersectionnel, à la voix qui porte de Maya Angelou à Tarana Burke, à qui on doit le mouvement hashtag MeToo. Je pense également à des personnes engagées dans des contextes difficiles, comme les médecins qui offrent des soins d'avortement malgré les risques. Par exemple, le docteur George Tiller, assassiné en raison de son travail. Mais le féminisme ne peut être uniquement le fait de figures exceptionnelles. Le féminisme peut et doit s'incarner dans des changements structurels et dans le quotidien. C'était « L'égalité vue par Geneviève Bois », un texte de l'équipe de rédaction, paru le 7 mai 2026 dans « La Gazette des femmes ».
Des technos au service des gens. Un texte de Maxime Bergeron paru le 30 mai 2026 dans la presse. Une piste cyclable est peinte au sol dans une avenue achalandée en marge du centre-ville. Nichée dans un poteau, une caméra surveille en tout temps le nombre de cyclistes qui l'empruntent. Dès qu'ils sont assez nombreux, l'appareil envoie un signal au feu de circulation tout au long de cette piste. Une vague verte se déclenche. Résultat, la durée des feux verts est allongée pour permettre aux cyclistes de circuler en peloton sans devoir s'arrêter, comme une vague. Les cyclistes sont ainsi priorisés par rapport aux automobilistes. Ils gagnent en efficacité et aussi en sécurité, résume le chercheur Majid Sarvi de l'Université de Melbourne. Intelligence artificielle. C'est le sujet de l'heure partout dans le monde. Devrait-on utiliser l'intelligence artificielle, IA, un peu, beaucoup ou pas du tout? La réponse à Melbourne est « énormément ». Cette technologie est même au cœur de sa nouvelle stratégie de mobilité. À l'heure actuelle, la ville australienne y recourt surtout pour planifier des déviations lorsqu'elle doit fermer des rues pour des travaux ou la tenue d'événements spéciaux. Elle l'utilise aussi pour prédire jusqu'à 3 heures plus tard l'état de la circulation et de la congestion dans certaines rues. Prochaine étape visée, donner à l'IA le contrôle de tout le système de signalisation de la ville pour l'ajuster en temps réel aux conditions de circulation. Les bons vieux SCAT. Bien avant l'avènement de l'IA, Melbourne s'est dotée d'un système de régulation de la circulation créé dans les années 1970, ici même en Australie. Le Sydney Coordinated Adaptive Traffic System, appelé SCAT, est un mécanisme installé à presque chaque intersection de la ville. Il détecte le nombre de véhicules immobilisés grâce à des capteurs situés sous la chaussée. Il est aussi connecté aux interrupteurs des traverses piétonnes. La durée des feux de circulation est adaptée en fonction de ces informations recueillies en temps réel. Le SCAT est utilisé partout en Australie et dans une trentaine d'autres pays. Il permettrait de réduire jusqu'à 21% la durée des trajets. L'espoir des autorités de Melbourne est d'optimiser encore plus ses gains grâce à l'IA. Caméra à gogo. Une autre technologie bien établie est utilisée à toutes les sauces ici, les caméras. Il y en a des milliers à Melbourne, au coin des rues, dans les ruelles, dans les parcs, devant chaque immeuble. Cette surveillance omniprésente peut sembler surprenante, voire choquante, pour un Nord-Américain. Mais ici, la chose semble en général bien acceptée. Les avancées technologiques récentes permettent de coupler l'IA aux caméras traditionnelles. Dans le réseau routier de Melbourne, ces appareils de nouvelle génération détectent automatiquement toutes les situations problématiques. Cela permet de dépêcher des équipes de secours ou d'offrir des trajets de rechange sans délai. C'était « Des technos au service des gens », un texte de Maxime Bergeron, paru le 30 mai 2026 dans la presse.